Chapitre 7. Violette. Au château, les dîners étaient improvisés. De petits groupes de gens se rassemblaient autour de courtes tables ou s'asseyaient en cercle devant leurs assiettes. Ils se réunissaient au premier étage, dans une immense salle percée de fenêtres. Violette et les enfants s'installaient à l'extrémité de la pièce, un peu à l'écart des principaux groupes d'adultes, mais assez près pour capter les bribes de conversation. C'était, il le savait, un bon moyen de savoir ce que les grands préféraient leur cacher. Ce soir-là, le menu était composé de rations de surplus militaire avec supplément de pissenlit. C'était amer, et les petits détestaient. Mais tous finirent leur assiette. Au cours des semaines qui avaient suivi l'épidémie du poison vert, ils avaient compris ce qu'était vraiment la faim. Et si certains s'étaient au départ montrés difficiles, ils avaient aujourd'hui dépassé ce stade. En pleine conversation avec trois autres adultes, Ginny était assise à une table près de l'une des grandes fenêtres de la galerie. Mike Walker, qui avait mené un groupe du Mandarin Hotel au château après l'inondation, se trouvait avec elle. C'était il y a déjà presque 3 semaines, réalisa Violette. Elle commençait à se sentir chez elle au château.
« Il faut être vigilant, » dit Mike. « Ils occupaient déjà le Capitole, et voilà qu'ils se sont emparés du musée de l'air et de l'espace. Ils ne mettront pas longtemps à parvenir jusqu'ici. »«
Peut-être, peut-être pas, » répondit Ginny. « Nous n'avons rien qui pourrait leur servir. »«
Ce ne sont pas des voleurs, Ginny. Ils ne veulent pas nous dépouiller. Ce sont des cinglés assoiffés de pouvoir. » Ils cherchent juste des gens à asservir. »
Mike parlait comme un professeur, donnant toutes ses explications par étapes. Violette trouvait cette manie insupportable, et elle était sûre que Ginny partageait son avis.
« Je sais très bien de qui nous parlons, Mike. Et je pense que si nous faisons profil bas sans rien changer à nos habitudes, nous pourrons compter sur la JTF pour garder la situation sous contrôle. »
Elle jeta un coup d'œil aux enfants. Violette regarda aussitôt ailleurs, mais c'était trop tard. Ginny avait bien vu qu'elle les observait.
« Bref, on en reparlera plus tard. »
Mike se tourna lui aussi vers les gamins.
« Comme tu veux, mais je crois qu'ils ont le droit de savoir. »
Ginny posa violemment sa fourchette sur la table.
« Ils en savent déjà bien trop pour leur âge. C'est nous, les adultes. Nous devons les protéger autant que nous le pouvons. »
« Ginny... Il y a des charniers à 200 mètres de nos fenêtres. De quoi veux-tu les protéger ? »
Mike se penchait vers elle pour lui parler, mais sans vraiment quitter les enfants des yeux.
« Si on allait ailleurs ?»
chuchota Amelia. Wiley et Saïd commencèrent à rassembler leurs assiettes. Les autres les imitèrent. Violette attendit aussi longtemps qu'elle put, mais Mike ne disait plus rien, et Ginny le fixait. Elle était en colère, cela se voyait. Bien que la conversation l'ait mise mal à l'aise, comme si elle avait vu ses parents se disputer, même si elle n'en avait plus, Violette voulait rester là. Elle tenait à en savoir plus sur ce qui se passait dans le coin. Après tout, c'était eux que l'on commencerait par emmener ailleurs, si l'endroit devenait dangereux. Elle savait qu'il y avait plusieurs bandes en ville et qu'elles s'affrontaient. Si certaines avaient l'air d'avoir perdu la raison et de simplement vouloir tout casser, d'autres portaient des uniformes, ou du moins des vêtements qui s'en rapprochaient. Celle-là avait un objectif. Le pouvoir, à en croire Mike. Violette repensa au président. Qui dirigeait le pays? Quelqu'un dirigeait-il seulement? Shelby la tira par le bras.
« Allez, viens, Vie, » dit-elle. « On monte !»
Tous les enfants étaient installés dans la même grande pièce du 2e étage, au bout de l'aile est. Les fenêtres donnaient dans 3 directions différentes, au nord sur le Mall, à l'est vers le Capitole et au sud vers l'Enfant Plaza. Il n'y avait pas assez de canapés pour tout le monde, mais ils avaient des sacs de couchage et des oreillers, ainsi que des tapis qu'ils avaient traînés là pour couvrir le sol en pierre. Ce n'était pas si mal. Pendant un temps, Violette s'était endormie toutes les nuits en pensant à son ancienne chambre dans la maison de School Street à Alexandria. mais ça ne lui arrivait presque plus. Ce soir, cependant, elle n'arrivait pas à se la sortir de la tête. Les lieux étaient-ils occupés en ce moment? Y avait-il un autre enfant dans son lit, qui jouait avec les peluches qu'elle avait gardées, quand bien même elle ne l'intéressait plus vraiment? Probablement pas. La maison était certainement vide, ses fenêtres brisées et ses pièces vandalisées par des pillards. Deux jours après le début de la catastrophe, les parents de Violette s'étaient rendus dans une zone de quarantaine. Sa mère était déjà malade, et son père avait été contaminé dans la foulée par le poison vert. Tous deux étaient morts deux semaines après le Black Friday. Les responsables du site l'avaient gardé sur place deux semaines supplémentaires au sein d'un groupe d'autres enfants, d'autres orphelins. Elle insistait beaucoup sur ce mot, car il correspondait à une réalité qu'il lui fallait accepter. Ses parents étaient morts. Saïd avait lui aussi appartenu à ce premier groupe de jeunes. Certains avaient été accueillis par des proches, mais Violette et Saïd n'étaient sortis du site que pour être emmenés au camp du Mandarin Hotel. C'était là qu'ils avaient rencontré les autres. Depuis, ils ne se quittaient plus. Ils finirent leur repas presque en silence. Tous pensaient aux paroles de Mike et de Juni, mais aucun n'était prêt à en parler. Noah descendit leur vaisselle à la cuisine, puis ils se brossèrent les dents. Les adultes étaient intraitables à ce sujet. Les dentistes étaient plutôt rares, et on leur avait répété que les infections dentaires pouvaient être mortelles. Violette était tombée des nues. Il faisait presque nuit lorsqu'ils finirent de se laver. La pièce était éclairée de quelques bougies. La règle, c'était de les éteindre avant de se coucher, sans quoi les adultes les reprendraient. Amélia se chargeait de la tâche. Elle attendit donc que tous les autres enfants se soient glissés sous leur couverture ou dans leur sac de couchage, puis souffla les bougies et s'étendit sur son canapé. Tous savaient ce qui allait suivre. Violette ne voyait aucun inconvénient à parler, mais elle n'aimait pas lancer les discussions. Aussi fut-elle soulagée lorsqu'Ivan lâcha. « Si on part, notre père ne pourra plus nous retrouver. »
« Bien sûr que si, » répliqua Amélia. « Ne t'en fais pas. »«
Je ne crois pas qu'on aura besoin de déménager, » affirma Saïd, éternel optimiste.
« Mais au pire, on pourra retourner à l'hôtel une fois l'eau redescendue. »«
L'hôtel sera en trop mauvais état, » rétorqua Wiley. « Il y aura au moins 30 cm de boue et du moisi de partout. »
Il avait des proches à la Nouvelle-Orléans qui lui avaient parlé des inondations consécutives à l'ouragan Katrina.
« Alors on ira ailleurs ?» continua Saïd.
« Ouais, » dit Shelby. « Mais où ?»
Ses parents étaient des diplomates de Chine ou quelque chose comme ça. Parfois, elle disait que son oncle de Pékin viendrait la chercher, mais tous savaient que cela n'arriverait jamais. Il n'y avait plus de carburant pour les avions, même s'il leur arrivait de voir des jets ou des hélicoptères de l'armée. La Chine leur semblait aussi inatteignable que la Lune.
« Tu penses qu'on est en danger, Vi ? » reprit-elle.
Elle commençait à voir Violette comme sa grande sœur, ce qui ne posait pas de problème à l'intéressée, même si elle ne savait pas trop quoi lui répondre.
« Aucune idée, »
répondit-elle en pensant à la poudre jaune et au fait que depuis deux semaines, les tirs qui provenaient du môle semblaient se rapprocher. Il y avait aussi plus de soldats de la JTF qu'avant. Ce qui était une bonne chose, vu qu'ils protégeaient tout le monde, et un mauvais signe, car leur présence signifiait que le danger croissait.
« Mais de toute façon, » continua-t-elle, « tout ira bien. Tant qu'on restera ensemble, tout ira bien. »
Après cela, plus personne n'eut grand-chose à ajouter. Violette les entendit rapidement s'endormir, le souffle profond et régulier. Elle resta éveillée un moment, l'esprit occupé par des sujets auxquels elle aurait préféré ne pas penser. Il y avait des incendies près du Capitole, et elle se demanda s'ils se propageraient dans leur direction. Jusqu'où s'étendraient-ils? Elle l'ignorait, comme tout le monde. Le regard fixé sur les flammes qui dansaient au loin, l'orpheline se demanda si les choses reviendraient un jour à la normale.